trésor de la connaissance des Écritures, Amo, théologie d'Un. Comme tous les prophètes bibliques, Amo a prononcé les oracles de Yahweh, le Dieu d'Israël, aux gens dans un contexte particulier. Afin de comprendre la théologie du livre qui porte son nom, il faut avoir une compréhension de base de ce contexte. Les premiers destinataires du message d'Amo étaient les citoyens du royaume du nord d'Israël vers 760 AV. Que Yahweh appelle Amo pour leur prophétiser était, en soi, plutôt remarquable car il n'était ni un professionnel religieux ni un habitant du nord, mais un agriculteur de Tekoa en Juda, 1.2.1. 7.2.14 à 15. Ce que cela signifiait, pour quiconque était capable de le percevoir, c'était que Yahweh n'était pas le genre de Dieu qui se sentait contraint par convention lorsqu'il choisissait un individu pour la tâche à accomplir, même si cette personne semblait incompétente. La tâche de ce laïc du Sud était de se rendre dans ce qui était essentiellement un pays étranger et de transmettre un message dur à des personnes vivant dans une relative aisance. Israël, sous le règne de Jéroboam II, 793 à 753, fut propulsé à des sommets de puissance et de prospérité inégalés depuis l'époque de David et de Salomon. Beaucoup étaient portés par un sentiment de bien-être et se sentaient optimistes quant à l'avenir. Alors que l'armée était forte et que le produit national brut était élevé, la nation était dans un état avancé de décadence sociale, morale et spirituelle. Des extrêmes choquants de privilèges et d'impuissance, de richesse et de misère étaient apparus. Les juges pourraient être soudoyés. La religion était un mélange syncrétiste de dévotion rituelle à Yahweh et à diverses divinités païennes. Le fait que Yahweh dut convoquer Amo pour remédier à cette situation constituait une accusation accablante contre les dirigeants israéliens, tant religieux que laïcs, qui manquaient de la fibre éthique requise. Une exception notable était Osée, dont la dénonciation de l'apostasie spirituelle d'Israël complétait l'exposé dévastateur d'Amo sur son tissu social et moral en lambeaux. Yahweh. Toute discussion sur la théologie du livre d'Amo doit commencer par son portrait de Yahweh. On aperçoit de nombreux aspects de son caractère et de son activité. Les trois caractéristiques les plus marquantes de ce portrait sont sa souveraineté, sa justice et sa grâce. Tout au long du livre, dans des énoncés contenant un nombre remarquable de formes à la première personne du singulier, Yahweh indique sa souveraineté en affirmant à plusieurs reprises qu'il initie les choses. Les événements, passés, 2, 9 à 11, 4, 6 à 11, 9, 7, et futur, 1, 4 à 5, 2h13-16, 5h27, 6h14, 9h11-15, ne sont pas le produit du hasard mais les inventions de Yahweh. De plus, il rapporte les effets dont il est lui-même la cause, avant qu'ils ne se produisent, 3.2.6 à 8. La prophétie d'Amo met en évidence deux domaines majeurs dans lesquels Yahweh manifeste sa souveraineté, la nature et les nations. Dans certains passages, sa seigneurie sur la nature est démontrée à la fois dans son rôle de créateur, 4.2.13, 5.2.8, et dans sa maîtrise de ses forces impressionnantes à ses propres fins, 4.2.6 à 11, 5.2.8 à 9, 7.2.1 à 6, 8.2.7 à 14, 9.2.5 à 6. Ces parties et d'autres du livre, 1.2.2, 3.2.8, révèlent la grande puissance et la terrible majesté du Dieu avec lequel Israël doit traiter. Yahweh manifeste également son autorité suprême sur les nations. Comme on pouvait s'y attendre, Amo montre que Yahweh est le souverain d'Israël. C'est lui qui a élu ou choisi le peuple d'Israël pour une relation d'alliance spéciale avec lui-même, qui l'a sauvé de l'esclavage en Égypte et qui l'a conduit à travers le désert brûlant jusqu'à son héritage territorial, qu'il a arraché aux Amoréens, 2, 9 à 10, 3, 1 à 2, confère Jean 15h12-16. Yahweh déclare maintenant qu'il punira et dispersera la communauté de l'Alliance actuelle, qui lui a été infidèle, 2.13, 3.2.14, 5.2.26 à 27. Finalement, il restaurera Israël, 9, 11 à 15. Cependant, insiste Amo, Yahweh ne règne pas seulement sur les affaires d'Israël, il contrôle également les mouvements des autres peuples, 9.2.7, appelle d'autres nations à exécuter ses ordres, 6.2.14, et juge les autres États conformément aux normes qu'il leur a fixées, 1.2.3 à 2.2.3. Un autre élément important du portrait qu'Amo fait de Yahweh est sa justice. La justice de Yahweh est un corollaire de ses attributs de sainteté et de justice qui reflètent son essence même et qui, selon lui, distingueront ceux qui le nomment comme leur Dieu, Exode 19.2.5 à 6, Lévitique 11.2.44 à 45, 22.7, Amo 5h14-15 Amo 5h24. Comme nous l'avons déjà indiqué, la base sur laquelle Yahweh se rapporte aux Israélites est son alliance avec eux. Dans cette alliance, il expose ses attentes concernant la manière dont ils devraient se comporter avec lui et entre eux. Ces relations doivent être caractérisées par le genre d'amour qui se manifeste par la loyauté et la fidélité envers lui, 2:6, 4:14, Amos 5, 4:6, et la justice et la compassion envers leur prochain, Lév 19, 9:18, Amos 5:15, Amos 5:24. Il énonce également, dans des termes rappelant les traités Deutéronome 28:1 à 68, 29:22 à 28. Il bénit conformément aux promesses de l'Alliance, Deut 32:1 à 10, Amos 9:11 à 15. Il ne juge pas comme une divinité hargneuse qui s'en prend de temps à autre à son peuple dans des explosions arbitraires et irritables, mais comme quelqu'un qui fait prendre effet aux malédictions de l'Alliance, Amiral 7, 1 à 9. Cela est évident dans les références à la famine et à la faim, 4, 6, 8, 11, 12, Conférlive 26, 26, Deutéronome 28, 48, Deutéronome 28, 51 à 57, à la sécheresse et à la soif, 4, 7 à 8. 8:13-14, Conférlive 26, 19 à 20, Deutéronome 28, 22 à 24, Deutéronome 28, 48, Maladie et fléau, 4, 9 à 10, Confère Lévitique 26, 16 Lévitique 26, 25, Deutéronome 28, 21 à 22, Deutéronome 28, 27 Deutéronome 28, 35 Deutéronome 28, 38 à 40 Deutéronome 28, 42 Deutéronome 28, 59 à 61, Désastre, 4:11, Confère 2:29, 22 à 23, Défaite militaire et destruction, 2:14-16, Amos 3:11, Amos 3, 1 à 15. 4:10, 5, 3, Amos 6:11, Amos 6:14, Amos 7, 9, Amos 7:17, 8, 3, Amos 9, 1 Amos 9, 8 Amos 9:10, Confère. Lévitique 26, 7 Lévitique 26, 25 Lévitique 26, 30 à 33, Deutéronome 28, 25 Deutéronome 28, 48 à 57, et l'exil, 4, 2 à 3, Amos 5, 5 Amos 5:27. 6, 7, Amos 7:11, Amos 7:17. 9, 4, Confère. Les 26:33 à 39, Deutéronome 28:36 à 37, Deutéronome 28:41, Deutéronome 28:63 à 68. La justice de Yahweh est également observable dans ses relations avec les autres nations. On attend d'eux qu'ils agissent conformément aux normes éthiques et morales fondamentales qui font partie de la révélation générale. Ces normes sont imprimées dans la conscience même des humains qui n'ont pas accès au code juridique d'Israël, psaume 19:1 à 4, acte 14:17, 17:24 à 28, romains 2:18 à 32, 2:14 à 15. Lorsque les nations ne parviennent pas à se conformer aux normes de base, Yah veille à ce qu'elles subissent une rétribution appropriée, Amos 1, 3 à 2, 3. Le livre d'Amos donne également une indication claire de la grâce de Yahweh, c'est-à-dire de la bonté et de la miséricorde qu'il prodigue aux hommes sans égard au mérite. Cette grâce est évidente, tout d'abord, dans son élection d'Israël, Amos 3, 2, Confère Exode 19, 3 à 8. Ailleurs, Yahvé assure à son peuple que ce privilège ne lui a pas été accordé parce qu'il était si nombreux ou juste, car il ne l'était ni l'un ni l'autre. Il les a choisis et leur a donné la terre qu'il avait promise en raison de son amour pour eux, de sa loyauté envers les patriarches et de sa répulsion face à la méchanceté des anciens habitants de cette terre, 2:7-2:6 à 9, 9:2.4 à 6. Tout au long de l'histoire d'Israël, il a démontré sa sollicitude aimante envers le peuple par ses actes puissants et ses dispositions merveilleuses. Mais ils ont répondu par l'infidélité et le rejet de ceux qu'il a envoyés pour montrer le chemin du retour vers lui-même, Amos 2:6 à 12. 7:2.12 à 16. Il a cherché à les sortir de leur léthargie spirituelle et à les amener à la repentance en leur envoyant des calamités du genre de celles décrites dans les malédictions de l'Alliance, mais en vain, 4:2.6 à 11. Pourtant, il continue de les inviter à le chercher et à vivre comme il le devrait, Amos 5, 4 à 6, Amos 5:14-15, Amos 5:24. Bien que la situation se détériore au point qu'il ne peut plus épargner la nation, 7:2.1 à 8. 8:2.1 à 2. Il parle toujours en termes d'un reste survivant du peuple, 5:2.15, 9:2.8 à 10. Il regarde également au-delà des ténèbres du châtiment, vers le moment où il rajeunira le pays et y établira le reste, 9, 11 à 15. La grâce de Yahvé est évidente non seulement dans ses bénédictions mais aussi dans ses jugements. Israël, le point central de la prophétie d'Amos est, bien sûr, la nation israélite. Comme nous l'avons déjà indiqué, Amos affirme la réalité de l'élection d'Israël. Mais le prophète continue en disant que le privilège de l'élection entraîne un haut degré de responsabilité envers le Dieu avec lequel Israël est en relation. Les normes selon lesquelles elle est jugée sont plus strictes que celles des autres nations. Elle est donc particulièrement sujette au jugement, 3.2, et pourtant, paradoxalement, en jugement, elle devient comme ces autres nations, 1.3-2.16, 9.7-8. La base du jugement d'Israël est son infidélité envers Yahweh. Cette infidélité se manifeste de plusieurs manières, mais le fait intrinsèque à chacune est le fait qu'elle ne parvient pas à être à la hauteur des attentes de Yahweh à son égard, 7, 7-8. Au lieu de refléter le caractère humanitaire et égalitaire d'une grande partie de la législation pentateuque, Exode 23:2.9, Lévitique 19:2.15, 25:2.35-43, 2:17-2.18-20, 24:2.14-18, la société israélite est divisée en classes définies par l'économie et l'influence politique, Amos 2:6-8, Amos 3:2.9-10, Amos 3:2.15, 4:2.1, 5:2.11-12, Amos 6:2.1, Amos 6:2.4-7, Amos 7:2.1, face aux dispositions détaillées de l'Alliance pour le soin des pauvres et des défavorisés, Exode 22:22-27, 23:10-11, Lévitique 19:9-10, 25:35-55, 2:10-17-19, 15:7-15, 24:19-22, les Israélites qui ont le pouvoir et la richesse oppriment ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, s'enrichissant davantage aux dépens de ceux si malheureux, Amos 2:6-8, 3:9-10, 4:1, 5:11-12, Amos 8:4, Amos 8:6. Malgré l'insistance de Yahweh pour que justice soit rendue entre les anciens suzerains et leurs états vassaux, les conséquences de la satisfaction, bénédiction, et de l'échec, jugement, de ces attentes, les 26:3-39, dans une atmosphère d'équité, de véracité et d'impartialité, Exode 23:1-3, Exode 23:6-8, 2:10-17-18, 19:15-19, 25:1-3, les tribunaux israéliens dispensent des mensonges, de l'exploitation et des verdicts favorables à ceux qui ont les moyens de les acheter, Amos 2:6-8, Amos 5:7, Amos 5:10-12, 6:12, 8:6. Au mépris des instructions explicites de mener des transactions commerciales honnêtes, Lévitique 19:35-36, 2:25, 13-16, les marchands avides trompent leurs clients en vendant des marchandises de qualité inférieure à des prix gonflés, Amiral 8:4-6. Ce qui rend cette litanie d'avarice et de corruption encore pire, c'est le fait qu'elle décrit une nation de personnes connues et en fait fières de leur implication religieuse, Amos 4:4-5, 5:21-23. 8:10. De plus, ils ont l'audace de prétendre que Yahweh est avec eux, 5:2.14. Sans aucun doute, ceux qui jouissent des bienfaits de la puissance et de la richesse de la nation les interprètent comme des preuves de la faveur et de la bénédiction de Yahweh, qui, selon eux, continuera indéfiniment, 9:2.10. Amos fustige les défenseurs de cet évangile pervers de la prospérité pour leur complaisance suffisante, leur faux sentiment de sécurité et leur orgueil, 6:1-14. 8:2.7. Ils ne vivent pas dans la lumière du sourire bienveillant de Yahweh, comme ils le supposent, mais dans l'accalmie avant la tempête du jugement, de 2:13-16, 6:2.11, 7:2.7-9, 8:2.1-2. Évidemment, certains parlent avec nostalgie du jour de Yahweh, 5:2.18-a, un jour où le royaume messianique, dans lequel ils pensent sans aucun doute jouer un rôle de premier plan, déplacera violemment l'ordre actuel, 5:2.18b-20, 9:2.8-15. Cependant, la religion sur laquelle il s'appuie pour s'assurer une place dans ce royaume est clairement creusée, comporte de nombreuses activités rituelles et cultuelles destinées à apaiser ou manipuler la divinité. Mais cela n'a pas d'impact appréciable sur la conduite quotidienne de ses adhérents, 8:2.4-6. Sous la surface, ce n'est pas la forme pure du culte de Yahweh envisagé dans le Pentateuque avec sa dévotion exclusive au Dieu d'Israël et son culte centralisé, Exode 22:2-6, 2:5:2.6-10. 6:2.4-5, 12:2.1-13:2.18. Il se caractérise plutôt par une multiplicité de sanctuaires et une susceptibilité aux incursions de divinités païennes et à leurs rites souvent licencieux, Amos 2:7-8, 3:14, 4:4, Amos 5:5, Amos 5:26, 7:9, 8:14. Ce genre de religion est odieux à Yahvé et le pousse à exploser d'indignation, 5:21-24. Le destin d'Israël est scellé, 3:11. 5h27. 8, 1 à 3, parce qu'elle a laissé passer des chances répétées de se réconcilier avec le Dieu de l'Alliance. 4, 6 à 11, Amo 5, 4 à 6 Amo 5h 14 15 Amo 5h 24. Il ne reste rien d'autre à faire ou à dire que d'émettre un avertissement pour que la nation se prépare à rencontrer le Dieu qui vient en jugement. 4.2.12. Les nations, bien qu'Israël soit au centre de la prophétie d'Amo, il dit également des choses importantes sur les peuples qui l'entourent. En cela, il est comparable aux autres prophètes dont les déclarations incluent des oracles sur les nations étrangères. Conférez Ésaïe 13 à 23, Jr 46 à 51, Ézéchiel 25 à 32, Sophonie 2, 4 à 15. La plupart de ces oracles sont des déclarations de jugement. À la base de tout cela se trouve la compréhension que la souveraineté de Yahou s'étend au-delà des frontières d'Israël, qu'il contrôle le destin des peuples de ces régions étrangères et qu'ils lui sont responsables de leurs actes. La responsabilité des nations envers Yahvé semble être basée sur une relation d'alliance analogue à celle entre Yahvé et Israël. Cela découle naturellement de l'idée de la souveraineté de Yahou sur les nations, dont les origines, les mouvements et les destinées, comme celle d'Israël, sont sous son contrôle, Amo 1, 3 à 2, 5, 2, 9 à 10, 4h 10 11, 6h 14, Amo 9, 7 Amo 9h 11 12. En adoptant une approche différente, on peut observer que les habitants des nations faisant l'objet d'une attention particulière dans Amo 1 à 2 pourraient être considérés comme les sujets de Yahou. Leur territoire respectif était à l'origine inclus dans les frontières du pays qu'il avait promis aux descendants d'Abraham, Jean 15 2.18. Par la suite, ces territoires furent contrôlés par David, 2 Saül 2.1 à 14, et Salomon, 1 Roi 4 2.21 à 1 Roi 4 2.24, et, à terme, ils seront inclus dans le royaume messianique envisagé par les prophètes. De plus, Édom, Genèse 25 2.21 à 26, Genèse 36 2.1, Genèse 36 2.8, Ammon et Moab, Genèse 19 2.36 à 38, ont une ascendance commune avec Israël. Ainsi, tous les groupes mentionnés ci-dessus pourraient être considérés comme étant liés les uns aux autres et liés à Yahou par une alliance. D'une manière ou d'une autre, toutes ces nations ont fait preuve d'une déloyauté persistante envers Yahou. Avec les mots « je ne reviendrai pas sur ma colère », Amo 1, 3 Amo 1, 6 Amo 1, 9 Amo 1h 11 Amo 1h 13, Amo 2, 1 Amo 2, 4 Amo 2, 6, il annonce soit son intention de ne pas révoquer la déclaration tonitruante du jugement contre chaque nation qui rompt l'alliance, 1, 2, soit sa décision de ne pas reprendre une telle nation comme alliance. Partenaire en règle. Dans les deux cas, chacun subira le sort auquel tout état vassal peut s'attendre de la part du suzerain contre lequel il s'est rebellé, en prenant des représailles militaires dévastatrices, y compris la destruction de ses principales villes. Le but d'Amos en prononçant des oracles sur les nations au-delà des frontières d'Israël du 8e siècle n'est pas seulement de déclarer le châtiment imminent de ceux qui ont été déloyaux envers Yahou. En fait, ces déclarations ne seront jamais entendues par ceux dont elles sont faites, sauf, au fil du temps, par le peuple de Juda. Le public initialement prévu pour toutes ces déclarations est Israël, 1, 1. Alors qu'Amo proclame solennellement la destruction de ses plus proches adversaires, il gagne sans aucun doute l'attention sympathique du peuple à qui il a été envoyé pour délivrer une parole de Yahvé. Ils espèrent que lorsque, enfin, il parlera de leur nation, le message sera un message de justification et de salut. Mais lorsqu'il expose leur transgression tout comme il a exposé celle de leurs voisins, il révèle que sa stratégie a toujours été d'encercler Israël de tous côtés avec les feux du jugement, Amo 1, 4 Amo 1, 7 Amo 1h 10 Amo 1h 12 Amo 1h 14, Amo 2, 2 Amo 2, 5. Elle est désormais isolée, dernière victime de la colère de Yahou. Sa patience envers elle, comme envers les autres nations, est épuisée, de 2.6 à 13. Jugement. Le livre d'Amo fournit des aperçus significatifs sur le thème du jugement. Yahvé punit à la fois Israël et les nations pour leur violation délibérée et répétée de l'Alliance. Il n'agit pas précipitamment en cela, mais mêle colère et grâce dans l'espoir que la partie fautive se repentira et évitera la destruction finale. Trois observations supplémentaires concernant la théologie du jugement du prophète peuvent être soulignées. Premièrement, le jugement de Yahvé est souvent à Lyon. Il s'agit simplement d'une rétribution ou d'un jugement en nature. Ainsi, ceux qui oppriment les autres et s'enrichissent aux dépens des défavorisés ne pourront pas profiter des fruits de leur trahison, 5, 11 à 12. Les pilleurs et les pilleurs seront eux-mêmes pillés, 3h 10 11. Les puissants qui s'appuient sur leurs prouesses physiques et se vantent de leurs exploits militaires seront surpassés dans ces domaines par d'autres qui sont plus capables, de 2.14 à 16. 6 2.13 à 14. Les plus importants de la société israélite, complaisants et en sécurité, seront parmi les premiers à partir en exil, Amos 6:7. Les gens qui ont rejeté le ministère des prophètes de Yahweh connaîtront une famine pour la parole de Yahweh et la chercheront partout, mais sans succès, 2h12, 7h12-16, 8h11-12. Ceux qui adorent les dieux des nations seront exilés vers ces nations, 5:2-26-27. Deuxièmement, le jugement de Yahweh, lorsqu'il n'est pas tempéré par sa miséricorde, est complet et implacable. Cela se fera sentir dans tout le pays, 1:2, 5h16-17. 6h14. Personne n'échappera à l'infatigable chien du ciel, 9:1-4. Au moment où la colère de Yahweh sera apaisée, il ne restera pathétiquement plus grand-chose de la nation, 3:2-12. Troisièmement, le jugement d'Israël et le jour eschatologique de Yahweh sont des événements liés. Les Israélites de l'époque d'Amos attendent ce jour avec impatience, 5:18, s'attendant évidemment à ce que les nations païennes soient vaincues et qu'Israël soit élevé à une place de prééminence parmi les nations en raison de sa relation particulière avec Yahweh. Mais Amos les résume en soulignant que Yahweh va également régler ses comptes avec Israël, et pas seulement avec les autres nations, 2h13-16, 5h18-20, Amos 8:1-3, Amos 8:9-14. L'association par Amos du jugement prochain d'Israël avec le jour de Yahweh fait ressortir avec force que ce sera la rencontre ultime de la nation avec lui. Espoir et restauration. Le message d'Amos est en grande partie sombre, mais pas exclusivement. Même dans certaines des sombres déclarations de représailles de Yahweh contre Israël, il y a des lueurs d'espoir concernant la survie d'un reste du peuple, 3h12, Amos 5:3-5h15, 9:8-10. Ces passages préparent le terrain pour les 5 derniers versets du livre, dont le ton et la perspective sont si différents que la plupart des biblistes estiment qu'ils constituent un ajout ultérieur. Le ton de 9:11-15 est complètement positif, sans aucune trace de jugement. La perspective semble être celle d'un exilé de Juda, il y a des références au retour de captivité, V14:2-30, 1:3, JR 30:3, à la réparation et à la reconstruction des ruines, V11:14, et à la possession du reste d'Édom, V12. S'il est vrai que cette promesse concernant la soumission d'Édom et d'autres nations doit être considérée dans le contexte de l'attente de longue date d'Israël d'un royaume davidique restauré, V11:9-1-7. 11h10-16, le fait de distinguer d'un reste vraisemblablement châtié d'Édom dans Am 9:12 rappelle un certain nombre d'invectives bibliques contre les descendants d'Ésaü pour leur joyeuse complicité avec les conquérants babyloniens de Juda en 586 AV. Psaume 137:7, Lames 4:21-22, Ézéchiel 25:12-14, Obin 5:21. Que ce soit aussi la dernière section du livre d'Amos ne vient pas directement du prophète de ce nom, il n'y a pas plus de raison pour les croyants de douter de sa place dans le canon inspiré des Écritures que n'importe lequel des livres bibliques pour lesquels la question de la paternité reste ouverte. La phrase qui introduit cette section, « En ce jour-là, 9:2-11, associe les événements décrits dans cet oracle du salut au jour eschatologique de Yahweh. Ici est représenté le bon côté de ce jour, dont la lumière ne se lèvera jamais sur les Israélites intransigeants dont Amos sert. Ce sera un jour de bonheur ou de malheur selon l'état de la relation avec Yahweh. Confère Joël 3:12-21, Obadiah 1:15-21, Zèche 12:1-9, 14:1-21, Malachie 4:1-6. Deux thèmes principaux constituent la toile de fond de la description faite par Amos de l'établissement du royaume éternel de Yahweh. La première, évoquée plus haut, est un retour à l'âge d'or de l'histoire d'Israël, à l'époque du règne de David, V11:12. Apparemment implicite dans le verset 11 se trouve ce que déclarent explicitement d'autres prophètes, à savoir que Yahweh restaurera un royaume unique présidera un David eschatologique, confère Ésaïe 11:10-14, JR 33:2-23-26, Ézéchiel 37:2-15-28, Osée 1:11, 3:2-4-5. Au verset 12, nous parlons de la récupération du territoire qui appartenait autrefois à l'Empire davidique. Yahvé rétablira ainsi ses droits sur les nations qui étaient, à l'époque de David, sous l'égide de son alliance avec Israël. Ce qui, dans le contexte de cette alliance, est décrit en termes impérialistes devient, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, une description de l'établissement de l'Église universelle du Christ, Actes 15:5-17. Le deuxième thème majeur de cette section est le renversement des malédictions de l'Alliance, V13-15. Ce scénario se joue dans le pays que Yahweh a initialement donné aux patriarches et à leurs descendants, Jean 13:14-17, 26:2-3, 28:10-13, mais qu'Israël a perdu à cause de son infidélité envers lui, Lévitique 18h24-28, 26, 27 à 39, 2 Rois 17, 3 à 23, 21, 1 à 16, 23 2.26 à 27, 24 Rois 2.1 à 4, 2 Chroniques 36 2.11 à 21. Le prophète anticipe une époque de revitalisation sans précédent. Les exilés de retour seront réinstallés en toute sécurité dans le pays alors qu'ils reconstruiront ses ruines et profiteront de sa somptueuse générosité. Cette existence renouvelée est décrite en des termes qui suggèrent un Éden restauré et une nouvelle création, conférée Ésaïe 65 2.17 à 25, Ézéchiel 47 2.1 à 12, Joël 3 2.18. Il devient clair que, tout comme les manifestations imminentes de la colère de Yahvé sont liées à son dernier jour de jugement, de même la restauration imminente des exilés représente la première étape dans l'établissement de son royaume éternel. Ainsi un livre dont le message est, pour la plupart la partie, caractérisé par un tel pressentiment, se termine par le genre d'espérance à laquelle les fidèles de tous les âges sont sensibles.